Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire et la culture du judaïsme, mais aujourd'hui c'est l'actualité qui s'est invitée dans l'émission, puisque le sujet du jour est un écho des polémiques qui sont nées autour de la question Rome après la circulaire qui a mis en place le démantèlement des campements illégaux. Cette circulaire a été la conséquence des violences déclenchées à Saint-Aignan après la mort d'un jeune homme issu de la communauté des gens du voyage et du discours de Grenoble du président Sarkozy. Elle a mis le feu aux poudres au sein de la communauté européenne qui a vu une discrimination ethnique à l'encontre des Roms, au point que la commissaire chargée de la justice et des droits fondamentaux, Viviane Reding, a fait le lien avec le traitement subi par les Tziganes lors de la Seconde Guerre mondiale. Si ce parallèle semble exagéré, et c'est ce qui nous a donné envie de faire cette émission, il est certain que les discours entendus ça et là, depuis cet été, ont mis en évidence la permanence des préjugés et des confusions autour de ces communautés, que certains appellent les gens du voyage. Finalement, c'est autant sur le sort des Tziganes en France au cours de la Seconde Guerre mondiale que sur cette constance des préjugés que nous avons eu envie de revenir aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Raphaël Pilosio, qui a réalisé l'année dernière un beau documentaire sur cette question de l'internement de 3000 à 6000 Tziganes en France, dans plus de 30 camps, et qui surtout a su retrouver des témoins de cette histoire pour leur donner la parole et avec elle une forme de reconnaissance. Alors pour commencer, Raphaël Pilosio, pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette question et à faire ce film, puisque je crois que vous avez rencontré ce sujet finalement un peu par hasard?
Oui, alors pour revenir tout de suite, donc il y a eu en fait, les chiffres, c'est donc 6000, plus de 6000 internés, 6500, alors, mais autour de 6000, pas autour de 3000. Donc moi je suis tombé dans cette histoire il y a 7-8 ans, en faisant un film sur un camp à Poitiers, qui était donc le camp d'internement de la route de Limoges, ou camp de concentration de la route de Limoges, à l'époque c'était le terme officiel. Et donc dans ce camp, il y avait des juifs qui étaient enfermés et ce qu'on appelait à l'époque des nomades. Et donc moi j'avais fait un film qui reprenait le témoignage d'une femme juive et le témoignage d'un homme qu'on va appeler nomade. Et le film se construisait autour de ces deux témoignages, de ces deux anciens internés du camp de Poitiers. Et à partir de ce film, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait toute l'histoire de l'internement des gens du voyage qui était complètement ignorée. C'est-à-dire que, bon, le camp de Poitiers n'était pas tellement connu, mais surtout, il y a eu une trentaine de camps en France qui ont enfermé des nomades et personne... Peu de gens le savaient et s'y intéressaient. Et très peu de témoignages d'hommes et de femmes qui ont été internés existent. Donc moi, j'ai eu la volonté de faire un film qui reprenne à la fois la parole, qui recueille la parole de ces internés, et aussi qui montre les lieux où ont été enfermés ces individus, ces hommes, ces femmes, et beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et donc le projet du film est parti de là, d'une confrontation un peu entre les lieux où étaient enfermés les nomades et la parole de ceux qui sont encore en vie aujourd'hui et qui peuvent témoigner.
Et justement, donc, dans ce témoignage, il y a beaucoup de personnes qui viennent raconter leur histoire. Comment vous avez réussi à retrouver tous ces rescapés, toutes ces personnes qui ont été internées dans ces camps ?
Alors moi, mon travail... Alors, disons que j'ai eu une grande... Il y avait un travail un peu d'historien à faire, au sens où il fallait retrouver aussi des listes de gens, des internés. Donc pour ça, j'ai été beaucoup dans des archives départementales pour retrouver les listes des noms des gens qui ont été internés. Et puis après, c'est un peu un travail de retrouver les gens qui, on va dire, de beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire que je connaissais du coup, par le premier film que j'avais fait, quelques familles. Et puis, un tel me disait, va voir là-bas, etc. etc. Parfois, je contactais aussi des travailleurs sociaux qui étaient en contact avec certains départements, qui étaient en contact avec des groupes familiaux. Et du coup, je savais qu'il pouvait y avoir des gens internés à cet endroit-là. Et du coup, je les appelais. Et puis, au fur et à mesure, après, on rencontre des gens plus facilement.
Alors, comme j'ai dit, donc, avant de commencer l'émission, il y a toujours confusion quand on vient à désigner ces populations. On parle de communauté des gens du voyage quand la plupart sont sédentaires, de Roms quand les origines sont diverses, mais la majorité en France, en tout cas de nationalité française. On mêle des catégories administratives, celles des nomades ou des gens du voyage, et des appartenances socioculturelles. On fait parfois donc, de ces populations des populations transnationales. On parle de tziganes, de bohémiens, de manouches. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, nous remettre un peu les choses en place, notamment sur ce qui se passait dans les années 30-40?
Alors, d'abord, je vais commencer par simplement rappeler par rapport aux dénominations, parce que ce qui se passe en 30-40, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Rome, on parle de population dite cigane, en général de Roumanie ou de Bulgarie, qui sont en France et qui sont des populations qui étaient sédentaires et qui sont en France à 90% de nationalité rome ou bulgare, roumaine ou bulgare, je veux dire. Donc c'est des citoyens roumains ou bulgares qu'on appelle Roms. Ils ne font pas partie de ce qu'on appelle les gens du voyage. Donc les gens du voyage, qu'est-ce que c'est ? C'est une appellation administrative pour des individus, hommes, femmes, enfants, qui sont soumis à un contrôle particulier, parce qu'aujourd'hui encore, ils ont ce qu'on appelle un livret ou un carnet de circulation. Donc on se rend compte que pourquoi ils ont un carnet de circulation ? C'est par un mode de vie où ils habitent dans une population, dans une résidence non fixe. D'où la caravane en général. Donc la catégorie gens du voyage, elle va regrouper des gens d'origine socioculturelle très diverse, de ce qu'on va appeler des manouches. Alors ce qu'on dit les manouches, en fait, c'est une population d'origine tzigane, au sens tzigane, ça veut dire, c'est le tzigane, c'est le mot scientifique utilisé pour désigner cette population. Donc une population qui viendrait d'Inde au 10e, 12e siècle, en France au 14e, 15e siècle. Mais la population gens du voyage, en fait, c'est vraiment un classement administratif de l'État français. Et avant de s'appeler gens du voyage, c'était une population qui s'appelait nomade. C'est-à-dire que c'était le carnet anthropométrique nomade qui définissait cette population. Mais il faut bien faire la différence entre les deux populations, parce qu'une, gens du voyage, elle désigne une population française à 99%, qui a un mode de vie normalement non sédentaire, alors même si parfois ils ne bougent pas pendant 6 mois et après ils reprennent le voyage. Mais après, on peut avoir des populations qui s'auto-désignent, et c'est là que ça devient compliqué, comme appartenant au monde du voyage, parce que leurs parents voyageaient, mais qui ne sont pas administrativement classés comme gens du voyage. Mais on se rend bien compte du coup qu'il y a une grande différence entre un classement ethnique d'une population comme les Roms qui se reconnaissent ou qui prétendent se reconnaître ou qu'on prétend qu'ils se reconnaissent en tant qu'une origine et que des valeurs culturelles communes. Et la population française, j'en dis voyage, qui est très très diverse, parce que dedans on va trouver des gens qui ont donc des manouches, ce qu'on dit. Donc des manouches, c'est des gens du voyage tziganes, on va dire, ou d'origine tzigane, qui sont en France depuis très longtemps. Hein. On va avoir des gitans. Donc les gitans, c'est des populations sédentaires, c'est pas des populations qui voyagent. Par exemple, dans les villes du sud de la France, à Nîmes, à Montpellier, on a des grandes communautés gitanes qui sont en centre-ville, souvent, qui n'ont pas bougé dans des quartiers depuis très longtemps. On va avoir encore d'autres comme ça, catégories de on va dire, segmentation de population. Donc ça rend en fait le discours général très compliqué.
Et donc vous évoquiez le carnet, le livret de circulation. Alors votre film donc, raconte l'internement des nomades en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant vous commencez par remonter au début du siècle, au décret du 16 juillet 1912 qui crée le carnet anthropométrique. Finalement ce livret de circulation est un peu l'héritier de ce carnet anthropométrique. Est-ce un carnet qui comporte des photos d'identité, face profil, que vous utilisez beaucoup dans le film, où l'on retrouve donc tous ces visages qui semblent attendre une explication. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler des origines de ce carnet et des obligations et des restrictions qui étaient liées à l'époque ?
Alors, les origines de ce carnet, moi, il y a une volonté, on va dire, je pense que c'est un peu trop compliqué, mais vite dit comme ça, il y a une volonté de contrôle de cette population qu'on désigne comme une population à risque, donc la population des ambulants, on va dire, finalement. Parce que la loi 1912, c'est le carnet anthropométrique, mais ça va être aussi le carnet forain, ça va être aussi d'autres modes de contrôle sur les populations ambulantes. Et après, ça rentre aussi en écho avec, on va dire, le système, tout ce qui est l'anthropométrie naissante au fin 19e siècle, hein, Bertillon, etc. Donc, pour l'origine. Ensuite, qu'est-ce qu'impose le carnet anthropométrique ? Le carnet anthropométrique, en fait, impose un contrôle strict à ses détenteurs. Ça veut dire que tout, à chaque entrée et sortie de village, de ville, il faut le faire tamponner à la gendarmerie ou au commissariat. Et en général, il y a des arrêtés municipaux qui imposent aux nomades de ne pas rester plus de 48 heures au même endroit. Donc quand on regarde un carnet d'entrométrie qui est une sorte de livre où il y a, je crois, 128 pages où il n'y a que des visas, hein, où il faut faire tamponner son carnet, on se rend compte qu'on peut resuivre à la trace des populations sur des parcours qui sont souvent très petits, hein, sur des très courtes distances. On peut les suivre à la trace sur 2 ans, 3 ans, et après ils rechangent leur carnet et on peut à nouveau les suivre à la trace. Donc il y a une traçabilité, une façon de suivre cette population qui les apparente, on va dire, à des criminels. Parce que le carnet d'entrométrie auparavant, c'était pour les criminels. Et à l'époque, en 1912, il n'y a pas encore de carte d'identité. La carte d'identité, elle va être instituée en 1940. Donc on a vraiment la volonté de ficher et de contrôler cette population.
Voilà, donc finalement, ce qu'on veut contrôler surtout, c'est la mobilité. Et donc vous racontez aussi toutes ces étapes de l'internement des nomades en France, et vous commencez par évoquer une initiative française, donc celle de l'assignation à résidence finalement par crainte de l'espionnage, le 6 avril 1940. Une assignation à résidence qui rappelle celle organisée donc lors de la guerre 14-18 déjà. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première étape et ses conséquences pour les nomades à ce moment-là?
C'est-à-dire qu'un des derniers décrets de la Troisième République décide de fixer les détenteurs d'un carnet d'entrométrique et pas les autres personnes qui se déplacent. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Et donc, ces détenteurs de carnet d'entrométrique qui vont être désignés comme nomades sont obligés de se rendre à la gendarmerie ou à la gendarmerie, on leur indique un endroit où ils doivent stationner de force et ne plus bouger. Et en fait, très vite, à partir de l'automne 1940, cette population-là qui était assignée à résidence va se retrouver enfermée dans des camps. Donc le lien entre l'assignation résidence et l'internement, il est très direct.
Et donc Raphaël Pilosio, c'est assez rapidement ensuite que sur un ordre allemand, en octobre 1940, l'internement est réellement mis en place, alors surtout essentiellement dans la zone occupée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces quelques 30 camps français et des conditions dans lesquelles ils sont détenus de manière permanente, les familles nomades à ce moment-là?
Alors l'internement touche des familles entières, ce qui est très important parce qu'on a en fait il y a que 2 cas en France d'internement familial, hein, donc les juifs et les nomades. Il n'y a pas d'autres cas de figure. Et là, on se retrouve dans un cas de figure qui est très hétérogène parce que chaque camp est géré par le préfet. Et là, on a des différences très importantes entre les camps. C'est-à-dire qu'on a des camps qui vont être au début des camps qui vont être assez, peut-être, je ne sais pas si le mot est bon, laxiste, mais en tout cas, au début, on voit par exemple plein d'évasions de certains camps parce qu'il n'y avait pas assez de gardiens, pas assez de gens pour entourer. Et puis, il y a des camps au contraire où c'est très violent, très difficile. Alors après, il y a le lien commun à tous ces camps, c'est quand même, et à tous les pour toutes les personnes, ça a été la privation à la fois de liberté et surtout un gros aussi problème de nourriture. Parce qu'on se doute bien que les nomades dans un camp, en moment de restrictions alimentaires, de restrictions de difficultés budgétaires pour tout, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Donc on a beaucoup de cas de problèmes d'alimentation. Et là, donc, il y a une trentaine de camps. Et parfois, on a des camps comme le camp de Poitiers, comme le camp de Rivesaltes, où il y a les nomades sont internés avec des juifs. On a d'autres fois où ils sont internés avec des politiques. Alors en général, ça ne dure pas longtemps. Et assez vite, on décide de regrouper les nomades dans des camps spécifiques pour eux.
Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que finalement, contrairement aux Allemands qui ont développé une politique discriminatoire et planifié la destruction des Tziganes à Auschwitz, Vichy avait développé une politique violemment antisémite, mais n'avait pas nommément désigné les nomades comme faisant partie de l'anti-France, au même titre donc que les juifs, les communistes ou les francs-maçons. Et finalement, l'internement des nomades relève plus d'une continuité de la discrimination française que d'une nouveauté à proprement parler en lien avec le régime de Vichy.
Oui, effectivement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est très troublant avec l'internement des nomades, c'est donc cette histoire de carnet d'entrométrique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les derniers nomades à être libérés vont être libérés en 1946. Donc qu'est-ce que ça veut dire être libéré en 1946? Ça veut dire que ça inscrit dans une continuité République, Vichy, gouvernement provisoire de la République française, le traitement fait aux nomades. Et non seulement les derniers sont libérés en 1946, mais le carnet anthropométrique, qui est quelque chose qui est d'une vraiment scandaleux, hein, il ne sera abrogé, il sera retiré qu'en 1969. Donc là, on voit bien qu'il y a une indifférence totale au sort des nomades, par toutes les autorités, par l'État, par la République, dans une continuité qui s'inscrit, qui va tout au long du XXe siècle. Et avec en plus, si la France n'a pas déporté de façon organisée des nomades, il y a eu des nomades qui ont été déportés. Alors, on ne sait pas trop bien à chaque fois pourquoi, mais il se trouve que, par exemple, au camp de Poitiers, il y a eu une centaine de... Alors, que les hommes majeurs qui ont été déportés. Donc, avec des histoires qui sont très complexes, parce qu'elles relèvent plus de particularismes locaux que de décisions de l'État. Donc, qui sont encore plus difficiles à appréhender et à comprendre.
Oui, parce qu'il faut bien noter, effectivement, qu'il n'y a pas eu de déportation organisée de France vers l'Allemagne, à l'exception du Nord-Pas-de-Calais, du département du Nord et du Nord-Pas-de-Calais, qui était sous commandement militaire belge, et où là, il y a eu donc ce fameux convoi Z qui est parti de Malines avec 350 personnes.
Alors, il y a eu ce convoi-là, mais il y a aussi, je vous dis, le convoi de Poitiers, où là, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus trouble, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore exactement les tenants et les aboutissants. Ce qui se dit, c'est qu'on a demandé au préfet... la relève après le STO pour envoyer un contingent d'hommes en Allemagne. Plutôt que prendre des hommes du coin, il a dit on va prendre les hommes du camp de Poitiers. En fait, quand les Allemands ont vu arriver cette population-là, qui n'était pas exactement ce à quoi elle s'attendait, il y en a qui sont morts à Buchenwald, d'autres à Auschwitz. Donc on ne sait pas trop exactement, à partir du moment où ils sont à Compiègne, quel est leur parcours et comment l'expliquer.
Alors, l'autre élément très fort dans votre film, Raphaël Pilosio, c'est la question des traces. Donc, vous filmez effectivement dans ce documentaire l'emplacement des camps, puisque dans la plupart des cas, il ne reste finalement aucune trace. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette mémoire qui a disparu, de cette occultation de l'histoire de l'internement des Tziganes qui a duré assez longtemps en France ?
Je pense que l'exemple le plus surprenant, c'est l'exemple du camp de Saliers. Alors, le camp de Saliers, c'est un camp construit spécifiquement pour les nomades. C'est près d'Arles, hein, Saliers. Et donc, c'est un camp qui va enfermer peut-être 400 nomades, et qui, peut-être plus, je me souviens plus exactement. Et qui, pas longtemps après la guerre, hein, Clouzot filmera le cerf de la peur dedans. Donc ça résume assez bien finalement le sort de ces camps, c'est-à-dire que c'est un film qui a été au Palme d'Or à Cannes, qui a été un énorme succès populaire, qui se passe dans le camp de nomades, qui sera ce camp qui sera détruit à la fin du tournage, c'était une des clauses du contrat, et ce qui fait finalement que toute la France a vu des traces de cet internement, et sans jamais savoir que c'était un camp de nomades. Et finalement, ça résume assez bien la situation des camps de nomades, parce qu'on se rend compte que dans beaucoup d'endroits où moi j'ai été, les gens savent vaguement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé peut-être là, mais on n'en sait pas plus, ou on ne veut pas en parler, ou etc. etc. Et finalement, c'est une histoire vraiment de non-dit, ce qui explique pourquoi il y a peu de ce qui explique pourquoi ça ne s'inscrit pas dans la mémoire française, quoi.
Et d'ailleurs, dans votre film, on voit un de vos témoins, un homme très digne qui a la colère encore intacte, Jean-Louis Boer, donc dit Poulouche, qui raconte comment il pouvait, après la guerre, rencontrer d'anciens gardiens des camps qui n'ont jamais été inquiétés. Et c'est la question de la reconnaissance qui est abordée ici. Une reconnaissance qui n'a jamais vraiment été mise en place, puisqu'aucune indemnisation n'a été versée aux nomades, alors que la plupart des biens de ces familles ont été dispersés au moment de l'internement.
Oui, alors là, on touche quelque chose de très difficile, c'est-à-dire que l'internement spécifique des nomades n'a jamais été reconnu. Du coup, les préjudices qu'ils ont subis non plus. Et pour certains, ça a été ça a été quelque chose de terriblement appauvrissant. C'est-à-dire que dans le film, par exemple, on a l'exemple de quelqu'un qui dit « Voilà, moi, mon père, il avait deux projecteurs de cinéma, il avait un camion, il avait... » Bon, il avait tout, il était, donc son père faisait des projections de cinéma, il avait un chapiteau. Et au lendemain de la guerre, il perd tout et il se retrouve après avec un jeu de quilles. Donc on comprend bien à quel point cette perte matérielle signifie pour toute la famille et pour les descendants une perte complète de statut social, de statut économique, et dont ils ne se sont pas relevés véritablement aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a eu malgré tout, Raphaël Pilosio, quelques pas justement dans cette reconnaissance du sort fait aux Tziganes pendant la guerre ?
Il y a eu cet été, justement, ce qui est assez
paradoxal
cet été, mais d'ailleurs, ce qui est peut-être n'est pas complètement paradoxal. Hein. C'est-à-dire que cet été, pour la première fois, le ministère des Anciens Combattants a évoqué le sort des nomades pour les cérémonies du 18 juillet, ou 16 juillet, je ne sais plus. Et donc c'était la première fois que les nomades étaient mentionnés comme ça, avaient droit à une apparition dans le discours du ministère des Anciens Combattants. Fait troublant, hasard, on ne sait pas. C'est au même moment aussi qu'on a ce problème, soi-disant, de Saint-Aignan et cette apparition de cette volonté de faire une commission spéciale au plus haut sommet de l'État pour évaluer la politique envers les gens du voyage et Rome. Donc là, on a quelque chose de très, très étrange parce que, historiquement, les populations tziganes, les populations nomades, elles servent finalement à... Elles ont un peu cette fonction de bouc émissaire. C'est-à-dire que c'est des populations très faibles, sans aucun lien, on va dire, avec des médias, un lobby organisé, des penseurs, enfin quoi que ce soit, ou des gens qui les défendent. On a une population, pas de lien avec un pays d'origine. Par exemple, les communautés immigrées aujourd'hui ont des liens avec des pays d'origine. Donc on ne peut pas, à un moment, il y a des limites à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut imposer. Là, on a une population qui est finalement complètement sans défense et qui est du coup très pratique, à mon avis, là en l'espèce, cet été, pour la désigner comme bouc émissaire. Et du coup, à être un problème qu'il faudrait régler. Et donc, ce qui s'est passé à Saint-Aignan relève vraiment d'un fait divers et de rien d'autre.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter quelle place finalement tient dans cette population la question de cet internement et la question du samoudaripen ou du porajmos, donc les termes qui sont utilisés dans la communauté, puisque vous dites dans votre film que c'est une communauté qui est réticente à parler et à évoquer les disparus.
Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, les nomades, c'est des gens qui vont se rattacher à cette idée de communautaire, mais c'est aussi des gens qui vont être... Il y a une dame dans le film, j'ai insisté pour la garder au montage, qui dit « Moi, mon grand-père, il était ouvrier chez Renault. Nous, on ne parle pas manouche. Et on vivait simplement en roulotte. » Et en fait, la population nomade, en France... Elle n'a pas ce caractère ethnique cette idée de regroupement culturel. Elle est simplement soumise à une règle par l'État français et qui touche des Français très différents les uns des autres. Et donc, moi, je me refuse un peu à faire des généralités sur comment cet internement a été vécu par les gens qui ont été internés. Parce qu'en fait, on se retrouve à une telle diversité que c'est difficile de faire des liens entre tous ces individus.
Raphaël Pilosio, merci. Et votre film, donc, Des Français sans histoire, est disponible en DVD. On peut le trouver sur Internet, je crois. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, et le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.